Encore un psaume, en fait. Dans la même série que le psaume 131 que nous venons de méditer, mais cette fois, le psaume 122. Aussi, chant des pèlerinages, basilique. Psaume 122. Je me réjouis en ceux qui me disent « Allons à la maison du Seigneur ». Littéralement, c'est « en ceux qui me disent ». Ce n'est pas une proposition de temps quand on me dit. Peut-être que ça a la même signification, mais littéralement, c'est « en ceux qui me disent ». C'est la disposition de ces autres personnes qu'il entraîne avec lui qui réjouit le psalmiste. Nos pieds sont se tenant, c'est ce verbe qui veut dire se tenir, et la formule est très très emphatique ici. Oui, nos pieds sont vraiment là, dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem qui est construite comme une ville. Et alors là, vous avez une formule assez compliquée dans l'original, mais très intéressante. C'est un peu pour elle que j'ai choisi cette lecture. Une ville construite comme il y a lien cohérent, comme de façon liée avec elle, tout ensemble, en unité. Littéralement. Vous avez un verbe au passif qui évoque les liens qui font un assemblage. Et puis vous avez la même racine que j'ai évoquée en vous parlant du psaume 19 qui vient du mot « un » et qui évoque donc l'unité, la cohérence d'un tout unifié. Ce verset est une nouvelle attestation de la valeur unité et cohérence dans la perspective biblique en général. Donc, la ville de Jérusalem est ici présentée comme une ville cohérente, unifiée. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Le témoignage ou la constitution pour Israël, pour la louange ou la splendeur du nom du Seigneur. Car là, on siège sur les trônes pour le jugement, trône pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'il soit tranquille ceux qui l'aiment. Et là, je ne résiste pas à la tentation de vous dire les assonances qu'il y a dans la poésie hébraïque. Demandez la paix de Jérusalem, qu'il soit tranquille, c'est Shalom, Shalom, Yerushalayim. Yishlau. Donc, Yishlayu, des chants qui font une unité sonore dans ce verset. Qu'il y ait paix en ta muraille, tranquillité dans tes palais. À cause, mais plus littéralement, au fin de. C'est une locution qui indique le but, à cause, dans un sens final, de mes frères et de mes compagnons. C'est pour que la fraternité règne. Je parlerai paix en toi, afin, à cause de, mais c'est la même locution, à cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je cherche le bien pour toi. Le rapport avec notre sujet aujourd'hui, c'est ce thème de la cohérence. C'est aussi le bien de la communion fraternelle, du lien qui lie non seulement les pierres, les textes, mais aussi les membres du peuple de Dieu. Ceux qui se réunissent de façon structurée, d'ailleurs, dans la Jérusalem que Dieu a choisie. Nous consacrons notre dernière séance avec, j'espère, quand même un peu de temps pour des questions relativement libres. Il pourra en surgir aussi au moment du carrefour cet après-midi. Parce que si nous n'avons pas le temps de tout voir, il s'agit d'appliquer ce que nous avons reconnu comme règle sage dans nos travaux de la semaine. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai sélectionné des exemples où la solution me paraît bien acquise et des exemples où la solution, sans être inenvisageable, n'est quand même pas une solution qui dissipe toute gêne, tout embarras et donc qui constitue une épreuve pour notre foi. J'ai expliqué de quelle façon nous pouvons nous sentir comme l'enfant sevré sur sa mère, même face à de telles difficultés. Je cite un théologien puritain que je connais mal, je vous l'avoue. Daniel le connaît mieux que moi, il l'apprécie beaucoup. William Bridge, théologien puritain du XVIIe siècle. C'est James Packer qui le citait. J'ai noté ce qu'il en disait, c'était oralement. Donc je vous passe une citation de William Bridge que James Packer m'a transmise une fois. Il disait d'une façon vraiment, à mon avis, très astucieuse, en cas de conflit apparent entre des textes bibliques, il faut faire comme Moïse. Comme Moïse. Si le conflit éclate entre le texte biblique et une donnée étrangère à la Bible, il faut faire comme Moïse, il faut tuer l'Égyptien. Il faut montrer que la Bible a raison et que l'information non biblique que l'on met en opposition, en fait, n'est pas solide. Si le désaccord met aux prises deux textes bibliques, alors il faut essayer de réconcilier les frères, comme Moïse, les frères israélites. Vous vous rappelez les deux épisodes. Non, ça n'a pas tellement bien réussi à Moïse, mais... En ce qui concerne l'interprétation biblique et la démarche d'harmonisation au sens que nous avons défini, je pense que c'est assez bien dit, assez bien trouvé. Premier cas, désaccord apparent avec l'Égyptien, l'information extra-biblique. Je prends deux cas que j'ai déjà évoqués, en fait, dans les précédentes séances, mais sans développer du tout. Premier cas, qui se résout à mes yeux sans aucun reste, je suis tout à fait assuré quant à moi, ce n'est pas le cas de tous mes frères, je suis parfaitement assuré à ce propos, la question des jours du premier chapitre de la Genèse et du conflit entre une certaine lecture des indications concernant ces jours avec ce que l'on croit savoir sur la cosmogénèse, sur la constitution de notre univers à partir de 12 à 15 milliards d'années. Vous savez qu'il y a divers schémas qui sont rivaux à cet égard. Des gens qui ne se soucient pas d'inhérence, qui ne font pas confiance à l'écriture jusqu'à ce point, très couramment, considèrent que le récit de la Genèse se veut un compte-rendu chronologique de l'opération créatrice, mais qu'il n'a aucune valeur à cet égard pour nous, que son sens est bien de fournir une chronologie du processus créateur, mais que nous savons que les représentations que se faisait l'auteur du premier chapitre de la Genèse, pour eux c'est pas Moïse en général, que ces représentations sont inadéquates, qu'elles représentent un état puéril de science qui ne mérite peut-être même pas ce nom. Donc il y a erreur de l'auteur biblique, qui est bien excusable en cela, hein, mais il y a erreur dans la mesure où son intention était de nous rapporter des faits concernant la cosmogénèse, et que notre propre travail scientifique permet de dire tout autrement. Ça, c'est une façon de prendre la chose qui est très très répandue. Une seconde façon de prendre les choses, qui est la façon concordiste, qui est très répandue dans le monde évangélique, et il y a une quarantaine d'années, c'était pratiquement la seule qu'on trouvait dans le monde évangélique, représentée par quelqu'un comme M. Daniel Vernet, qui a beaucoup écrit sur de tels sujets. Cette solution concordiste consiste à dire les jours de Genèse ne sont pas à prendre de façon stricte et littérale, ils représentent des périodes, de longues périodes de temps. Le jour est à prendre selon l'élasticité du langage comme désignant une ère, et on peut faire une corrélation avec les ères géologiques, les ères que la science actuelle reconnaît dans la constitution de notre monde. Et alors on fait des correspondances. Là, il n'y a pas d'erreur dans le texte, il est compris de façon moins littérale que dans le premier cas, et il y a au contraire concordance avec les données de la science contemporaine. Il y a des difficultés, mais en général, on essaie de tourner un peu autour. La difficulté du quatrième jour avec le soleil après la végétation, en général, on dit, mais c'est que le soleil est devenu visible, que ce n'est pas vraiment qu'il ait été créé dans cette ère géologique-là. Puis vous avez un troisième schéma qui était inconnu en France il y a une quarantaine d'années, ou pratiquement inconnu en tout cas, mais qui aujourd'hui attire les suffrages d'un groupe très minoritaire, mais quand même très actif et très décidé, très résolu, de croyants évangéliques, qui tue l'Égyptien. C'est comme ça qu'il voit la chose, si vous voulez. Qui dénonce tout ce que dit la science la plus officielle, la grande majorité des savants d'aujourd'hui, en disant, en fait, c'est un schéma qui est né d'une idéologie antichrétienne, c'est dans l'intention de ruiner la parole biblique que les théories évolutionnistes sur l'origine de l'univers déjà et puis de la matière vivante ont été élaborées. Tout cela n'est pas réellement fondé au plan scientifique. Il faut démolir tout cet édifice, le répudier. Donc, interprétation littérale du chapitre, comme dans le cas de la première hypothèse de ceux qui ne croient pas à l'inhérence, en gros le même type d'interprétation, mais affirmé comme la vérité scientifique. Et c'est le discours dominant de la science officielle contemporaine qui est considérée comme erronée à détruire. Ça implique, par exemple, que l'univers, au lieu d'avoir 15 milliards d'années, est considéré comme n'en ayant que 15 000, ou à peu près. C'est l'hypothèse de la jeune Terre. Et puis, alors, vous avez une quatrième voie d'interprétation. Évidemment, si je la place en quatrième position, vous vous en doutez, c'est la mienne. Mais je n'ai pas inventé, mais disons que c'est celle qui me semble la plus convaincante. Selon cette quatrième voie d'interprétation, lorsque l'on scrute le texte en notant toutes les indications de l'intention de l'auteur inspiré, et moi je crois que c'est Moïse, lorsque l'on prend le texte aussi avec les allusions ultérieures dans l'écriture, si on fait jouer l'analogie de la foi à cet égard, on se rend compte que ce n'est pas son intention de nous donner une chronologie littérale du processus créateur. Qu'il use du schéma de la semaine avec des intentions didactiques très intéressantes, il s'agit de donner le sens de l'institution même du sabbat, et plusieurs éléments dans le texte, à mon avis, montrent que ce n'est pas pour l'auteur une affirmation, il n'affirme pas une affirmation que le monde aurait été créé littéralement dans une succession de jours, disons, du même ordre de durée que nos journées. Le mot jour est bien pris dans son sens ordinaire, jour, dans l'alternance du jour et de la nuit, mais à un titre parabolique. C'est un cadre d'intention parabolique qui vise à montrer la structure de la création, le sens qu'elle doit avoir pour nous. Alors j'ai développé tout ce que je considère comme les preuves de cette option, c'est-à-dire en fait, les indications du texte. J'essaie au maximum de mes possibilités personnelles de ne pas faire intervenir le problème du rapport aux sciences modernes. De me concentrer sur le texte. Je mets entre parenthèses ce que disent les savants, mais je m'attache au texte. Et je trouve dans le texte bien assez d'indices pour conclure que son intention n'est pas de me dire, dans la réalité chronologique de la cosmogénèse, Dieu a fait surgir tout ce qui est raconté successivement dans 6 jours d'environ 24 heures, ou disons correspondant à nos jours ordinaires. Ce n'est pas son intention. Du coup, le problème de la confrontation avec le discours des scientifiques d'aujourd'hui ne se pose plus, puisque le texte ne parle plus de ce sujet-là, ne s'occupe plus de cette chronologie littérale du processus cosmogénétique. Donc, c'est de cette façon que se résout pour moi la difficulté à laquelle achoppe plusieurs, et la surabondance et le recoupement de ces preuves sont-elles, à mes yeux, je vous invite à regarder aussi, simplement, mais j'atteste ce qu'il en est à mes propres yeux, n'est-ce pas, que je n'ai pas d'hésitation. Pour moi, ça devient quasiment une évidence que ce n'était pas l'intention d'auteur, bon, qu'on se crée un faux problème quand on parle d'erreur. Oui, oui, monsieur Aquitaine. Alors, elle est récente, je dirais, dans sa diffusion, mais elle n'est pas uniquement réservée au temps moderne. En fait, saint Augustin, par exemple, luttait contre une interprétation littérale des jours de Genèse 1. Il les prenait comme un mode de présentation. Alors, le paradoxe en l'affaire, c'est que pour lui, c'était trop long. Toute une semaine. Surtout à cause d'un verset dans l'Ecclésiastique, le livre apocryphe de l'Ecclésiastique, mais qu'il prenait comme écriture. Il avait le canon qui ensuite a été adopté dans l'Église catholique, et qu'il traduisait, parce qu'on peut encore traduire autrement, mais il traduisait, sa traduction en latin portait que Dieu a créé toutes les choses simultanément. Simul. Il comprenait ça comme en un seul instant. Alors du coup, pour lui, avoir 7 jours, ça faisait beaucoup trop long. Et ça le conduisait à discerner que le genre littéraire de passage, des indications du texte même, montrait bien que, en effet, ça, il n'avait pas été de l'intention de l'auteur, pour lui aussi c'était Moïse, de nous donner une chronologie littérale et successive. Et alors avant lui, il y avait eu Philon d'Alexandrie, Origène avait aussi eu des interprétations de cette sorte, il y en a eu aussi au Moyen-Âge, dans mon livre « Révélation des origines », je cite Gersonide, qui est un exégète juif du Moyen-Âge. Donc ça n'a pas été uniquement des temps modernes, c'est pas sous la pression des théories sur la durée de la cosmogénèse qui ont commencé à se constituer au XVIIIe siècle, en gros, que ces signes ont été perçus. Mais il est vrai que la diffusion de cette lucidité, à mes yeux c'est de la lucidité, a été assez récente. Entre autres parce que les réformateurs, je le déplore, moi toutefois, tant à Calvin, mais ne l'ont pas vu cela. Calvin adopte une interprétation qui est assez fortement littérale. Aussi d'ailleurs pour les chapitres 2 et 3. Calvin s'inquiète très fort de la localisation exacte du jardin d'Éden. Il fait des hypothèses, il prend la carte telle qu'il pouvait la voir, etc. C'est le type de lecture qu'il fait. Alors, je ne vais pas développer, n'est-ce pas, parce que c'est quand même pas notre sujet, c'est une illustration sur la méthode appliquée. Vous trouverez dans Révélation des origines, si vous le voulez, le détail de mon argumentaire sur ces indications. Oui, M. Lacquitaine. Oui.
Oui.
Cela relativise en tout cas l'interprétation des points précis et qui ne sont pas relatifs au message central de l'écriture. Oui, oui. Là, je crois que vous avez tout à fait raison. D'une part, il y a l'attitude d'humilité. Il y a aussi une prise de conscience du fait que le travail d'interprétation, il n'aboutit le plus souvent qu'à des probabilités et non pas des certitudes absolues, sauf quand il s'agit des éléments centraux du message qui sont communiqués de façon redondante. Ce qui fait que tous les éléments centraux du message biblique sont hors de toute relativisation, c'est que ça se recoupe des dizaines de fois. C'est que Dieu le dit une fois d'une manière, puis encore d'une autre, puis encore d'une autre. Et cette combinaison fait que la relativisation de toute interprétation, étant donné ce que vous venez de bien percevoir, est finalement annulée, devient négligeable, grâce à ce système de redondance. Hein, j'emprunte le concept de redondance à la théorie de la communication. Pour une communication réussie, dans les conditions habituelles de la vie humaine, il faut qu'il y ait redondance, que le message soit dit de façon diverse plusieurs fois. C'est comme ça que si on ne dit qu'une fois, comme ça devrait en théorie suffire, ça ne passe pas. Alors là, vous anticipez sur un point que j'aimerais pouvoir, mais c'est vrai que le temps passe vite, reprendre encore à la fin, sur les enjeux. J'en ai déjà un peu parlé, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler autant que je voudrais. Je dis d'emblée que moi je ne suis pas attaché à l'inhérence pour l'inhérence. Ce n'est pas l'inhérence en elle-même qui m'importe tant. Et je pense que les critiques, y compris Goldinger, qui accusent les évangéliques de voir les choses pour le petit bout de la lorgnette, de s'intéresser à quelque chose qui finalement a peu d'importance, elle ne me touche pas du tout en tout cas. Parce que ce n'est pas pour elle-même. L'inhérence importe, parce que si on nie l'inhérence, ce n'est plus la parole de Dieu même qui me touche, qui vient jusqu'à moi. Forcément, le sens de l'inspiration biblique est atteint, est atténué, miné. Donc c'est pour préserver ce qui est vraiment central que ce texte, parole d'homme, est simultanément la parole que Dieu m'adresse, sans déperdition du fait de l'intermédiaire humain. C'est pour préserver cela que je tiens tant à l'inhérence. Je crois qu'il faut la défendre. Mais ce n'est pas pour elle-même, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, oui.
Une petite remarque.
Oui.
Au niveau de la doctrine de l'inhérence, c'est vrai que par beaucoup de temps, j'ai dit qu'elle est absolutisée, ce qui amène à des aberrations.
Oui, oui, ceux qui se disent créationnistes.
Pour devenir une inhérence, à mon avis, mal comprise, ils vont jusqu'à dire que Dieu a créé la terre avec une apparence d'âge de 4 ou 5 milliards d'années. Ce qui veut dire que, comme la Bible est inhérente, Dieu ne peut pas nous tromper par sa parole, mais il va nous tromper dans la nature. Donc, ce qui est complètement. On aboutit à une.
Moi je suis en grande partie d'accord avec ce que vous dites. Là je raconte une anecdote. C'est assez dramatique d'ailleurs. Il y avait paléontologue, géologue, je ne sais pas quel était le titre exact, croyant au 19e siècle, qui croyait que les fossiles avaient été disposés par Dieu pour éprouver la foi de ses enfants. Il avait l'option numéro 3 et il croyait vraiment que ça faisait partie de la pédagogie divine, une apparence contraire. Et alors ses étudiants lui ont joué un tour. Là où il faisait des recherches, ils ont glissé de faux fossiles qu'ils avaient fabriqués, sur lesquels ils ont mis des inscriptions en hébreu, le nom du Seigneur, etc. Il a trouvé ça. Il a été enthousiasmé. Pour lui, c'était vraiment le Seigneur qui confirmait sa foi, qui lui montrait que c'était bien comme il l'avait compris. Il a publié ça et il s'est couvert de ridicule, évidemment. Ça a été dramatique. Mais c'est une illustration de, effectivement, de la manière dont certains, là, avec vraiment une extrême naïveté, ont pu fonctionner, même des gens très, très instruits peuvent être très naïfs. Je pense que dans leur attachement que j'apprécie à la parole de Dieu et à l'écriture vraiment comme la parole de Dieu, il y a des frères qui nuisent au bon crédit de la doctrine parce qu'ils comprennent mal le texte, qu'ils manquent de souplesse. Là, quand on manque de souplesse, il y a peut-être parfois un problème d'humilité. Mais qui manque de souplesse dans la compréhension de l'inhérence et du sens du texte, de ses modalités de langage. Bon, mais je pense qu'il faut que j'avance. Ayant donné ce premier exemple, je donne maintenant le suivant, qui au contraire est l'exemple difficile. Je vous ai signalé que certains vont jusqu'à dire c'est le plus difficile de tout le Nouveau Testament. C'est le problème le plus aigu. On est quand même assez bien renseigné sur l'histoire romaine de l'époque. On sait que Quirinius a été gouverneur de Syrie au début de l'ère chrétienne. Il a pris ses fonctions en 6 après Jésus-Christ, dans le compte de l'ère chrétienne, c'est-à-dire encore davantage d'années après la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus est né avant la mort d'Hérode et cette date date de moins 4 avant Jésus-Christ. On a fixé malheureusement de manière erronée Denis de Chartreux qui a mal fixé le début de l'ère chrétienne. Donc Jésus est né probablement vers moins 6 avant le début de l'ère chrétienne. Quirinius a été gouverneur en 6 après et il a fait un recensement qui a déclenché une révolte avec Judas le Galiléen qui est à la tête de la révolte qui a dû être réprimé. Et on ne connaît pas de recensement par Quirinius avant. Donc, quand on lit Luc 2, on est vivement tenté, c'est ce que font un certain nombre de gens, de dire Luc s'est trompé, Luc a mélangé, Luc avait entendu parler du recensement sous Quirinius, mais il l'a daté de manière erronée. Conflit entre une donnée biblique et une donnée extra-biblique. Et la donnée extra-biblique, par exemple, bien solide et certaine. Deux remarques avant de vous indiquer quelques éléments qui soulagent la tension qu'on peut éprouver. À ma connaissance, il n'y a pas de solution très heureuse qui remporte tous les suffrages. On dit « Ah bon, c'est ça, on a vu à cette difficulté. » Il y a une tension qui subsiste. C'est difficile. Et la conclusion de défenseurs évangéliques de l'autorité scripturaire, c'est de dire on ne peut sans doute pas résoudre de manière entièrement satisfaisante tant qu'on n'aura pas d'informations supplémentaires, tant qu'on n'aura pas découvert d'autres documents, inscriptions ou quoi. Deuxième remarque, il ne faut quand même pas croire que les non-évangéliques crient tous à l'erreur. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a recherche de solutions harmonisatrices aussi de la part de critiques libéraux ou semi-libéraux, qui ne croient pas à l'inhérence, mais qui se sont rendus compte qu'en général, Luc est fiable, que Luc a bien travaillé sur ses sources, que Luc, comme historien, mérite le respect, et qu'il serait quand même très étonnant qu'il ait fait une erreur aussi grossière. et c'est d'ailleurs un argument qu'on peut tout de suite mentionner. En fait, la révolte de Judas, le Galiléen, en 6 après Jésus-Christ, à la suite de ce recensement, est évoquée par Luc en acte 5:37. Et là, Luc semble parfaitement au courant. Donc il serait étonnant que ce monde en s'y mette au courant en acte 5, il ait fait une grosse erreur en Luc 2. Donc, il y a des critiques. Alors, ça nous montre que la situation n'est pas d'évidence d'une erreur, puisque même sans avoir d'intérêt doctrinal dans l'affaire, vous avez des critiques qui estiment qu'il faut chercher ici à harmoniser. C'est aussi l'occasion de dire que les critiques, y compris libéraux, semi-libéraux, ne sont pas animés d'une rage destructrice contre l'autorité de l'Écriture, ne sont pas des ennemis qui veulent principalement démolir la foi, qu'ils ne sont pas des suppôts de Satan, comme parfois évangéliques, nous avons tendance à les considérer. Bon, il y en a peut-être, hein. Je pense que dans quand même un certain nombre de cas de critiques qui sont issues de mouvements évangéliques, qui font une réaction très forte contre ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, comme un joug, comme et donc ça existe, de l'agressivité et une sorte de volonté destructrice. Mais un grand nombre d'entre eux, reconnaissons-le, sont des gens très, très, très aimables, qui ont parfois une foi personnelle réelle, à mon avis inconséquente sur le point de l'inhérence, mais leur foi personnelle ne doit pas être mise en doute. Et je peux mentionner là, je ne vais pas donner de nom, hein, parce que quand même là, je pense que je dépasserai la... Mais il y a un savant critique, pas extrême libéral, mais critique, n'admettant pas l'inhérence, qui a été assez connu dans le monde anglophone, et quelqu'un qui le connaissait personnellement, lui-même aussi un savant reconnu, qui a écrit plusieurs choses, etc., m'a raconté personnellement que l'anglais, là, lui a dit avoir eu personnellement une vision de Jésus-Christ. Avoir eu une vision. Jésus-Christ lui est apparu en vision. Ce n'est pas des choses que nous mettons spontanément avec l'image que nous faisons du critique libéral. Ça existe. Il faut que nous soyons tout à fait justes. Ça existe. À mon avis, c'est très inconséquent d'adopter les façons habituelles de la critique, qui est incompatible avec le respect de l'inhérence. C'était très inconséquent quand on a vraiment une foi en Jésus, qu'on croit au surnaturel, etc. Mais ça existe. Et ne caricaturons donc pas. Il y a des critiques libéraux qui cherchent aussi, pour Luc 2, à trouver une solution harmonisatrice. Mais ce n'est pas très facile. Alors, quelles sont les possibilités pour soulager la tension? Essentiellement, deux éléments jouent un grand rôle. Quirinus a été gouverneur de Syrie seulement nettement plus tard. Mais, déjà en 12 avant Jésus-Christ, il a été nommé consul et il a exercé des commandements envoyés de César Auguste dans l'Est. Il a peut-être été, en tout cas une supposition tout à fait vraisemblable, elle, généralissime des armées romaines dans toute la région du Moyen-Orient. Il a combattu un tribu révolté en Galatie. Ça, on le sait. Quirinus a été dans le coin avec un commandement. Et le terme utilisé par Luc, c'est le verbe hegemonoein, qui veut dire commander, gouverner, mais ce n'est pas un terme très précis, ce n'est pas le titre exact. Donc on peut comprendre qu'il n'était pas formellement le gouverneur de Syrie, mais qu'il exerçait un gouvernement dans la région. Le terme étant un participe verbal, donc le verbe au participe, n'implique pas une telle précision dans le texte de Luc. Donc on peut dire Quirinus était là, Quirinus s'en est chargé, Quirinus. Et deuxièmement, la grammaire du verset de Luc est de toute façon assez bizarre. Il y a le mot proté qui est employé. Je vous lis très, très brièvement. Donc, César Auguste a ordonné un recensement de toute la terre habitée, c'est-à-dire de tout l'Empire. Ce recensement proté a eu lieu. Quirinus, gouvernant la Syrie, etc. Proté. Si c'est le recensement de 6 après Jésus-Christ, celui qui est bien connu comme le recensement que Quirinus, 7 fois gouverneur en titre de la province de Syrie, a organisé, la Palestine étant dans la Syrie, à l'époque, dans la province romaine de Syrie, ce proté ne se comprend guère. C'est un peu gauche. Que signifie-t-il? Il peut être adjectif, le premier recensement. Ce premier recensement, mais alors, dans quel sens? Le premier par rapport à un deuxième qui serait celui de 6 après Jésus-Christ. Un premier recensement moins important, peut-être juste entamé. Et, ou bien alors, est-ce que proté peut se traduire avant que? En fait, nous avons un tel usage qui est attesté dans le Nouveau Testament. Jean 1, 15, 30, 1, 30 et 15, 18. Alors, certains suggèrent que c'est avant que Quirinus soit gouverneur de Syrie qu'il faudrait comprendre. Ce recensement a eu lieu avant que Quirinus soit gouverneur de Syrie. Vous voyez finalement, nous en revenons à cette humilité, à cette remise en cause de l'interprétation. Là, il s'agit carrément de la traduction. Comment comprendre le mot dans l'original? Et l'option qui paraît vraisemblable, même si la formulation du verset reste un peu gauche, un peu curieuse quand même, dans le grec, c'est qu'il s'agit d'un recensement lié aux opérations d'Auguste, du César Auguste, qui effectivement a introduit des recensements à but fiscal dans son empire, dans la dernière partie. Dans cette partie-là, c'est la dernière partie du règne d'Hérode, mais pour Auguste, ce n'est pas encore la dernière partie de son règne. Il a introduit de telles mesures, donc il a dû y avoir une opération de recensement vers 7, 6 avant Jésus-Christ. Soit Quirinus s'en occupant comme légat plénipotentiaire, c'est un personnage important, dans l'ensemble de la région, soit un recensement qui ici est rattaché à Quirinus, mais en disant avant que Quirinus soit gouverneur, pour montrer que c'est le processus qui finalement a été repris par Quirinus et qui a donné lieu au grand recensement de 6 après Jésus-Christ. C'est pas une solution parfaitement nette, parfaitement claire. En même temps, c'est plausible. Il n'y a pas lieu de dire « Ah, nous sommes là devant une erreur manifeste, le texte biblique est en erreur. » Non. Il y a une difficulté qui n'est pas entièrement résolue. Mais il est honnête de dire « Nous ne pourrons avoir de certitude quant à la bonne solution que si on trouve une inscription qui révélerait, par exemple, que Quirinus a eu un commandement précis dans la région, ou peut-être même qu'il a fait un recensement. Ça peut arriver. » En fait, il y a une inscription que Sir William Ramsay, qui a été un très grand archéologue, a interprétée comme indiquant que Quirinus avait fait un tel recensement. Lui, il a cru trouver la solution, mais en fait, cette inscription qui est endommagée, et c'est souvent le cas, où il faut reconstruire certaines lettres, ne nomme pas Quirinus. Alors, aujourd'hui, la plupart des gens disent non, quand même, cette solution de Ramsay ne peut pas tenir. Voilà. Voilà la situation. Oui.
Qu'il y avait aussi, lorsque j'ai écouté, des recensements de temps en temps et avec une certaine périodicité, de périodicité de 12 ans. et que ça correspond à travers du temps entre le premier recensement et le deuxième.
Voilà. Ah oui. Oui, je l'ai lu aussi dans, je vous ai dit, je me suis rafraîchi la mémoire sur le problème en lisant les textes dans notre bibliothèque, ce que j'ai chez moi, mais aussi ici, hier et avant-hier. Et effectivement, la chose est dite. Les deux traitements tout récents, détaillés, que j'ai trouvés dans notre bibliothèque, je vous les signale, sont dans le Dictionary of Jesus and the Gospels, dans l'article Birth of Jesus, naissance de Jésus, et d'autre part dans le commentaire sur Luc, qui est un gros commentaire, très gros commentaire de Darrell Bock. Deux commentaires qui, deux livres qui datent de ces dernières années. Voilà. Voilà donc sur cette difficulté. Nous allons jusqu'à la demi. D'accord. Deuxième catégorie. Des accords apparents dans l'écriture en matière théologique ou éthique. Je crois que... Certains voient une contradiction entre le lot Tirtsar, qui ne tuera pas, dans la traduction habituelle, et ces ordres de tuer qui viennent du Seigneur, d'après le témoignage biblique lui-même. Et là, il ne s'agit pas juste d'un verset, il s'agit de quelque chose d'assez global et structurel. Alors, quel est... la solution, je place cette difficulté dans celle qui, pour moi, se résolve complètement. Mais vous ne serez pas forcément persuadé, hein, parce que je crois que beaucoup de gens, là, ont beaucoup de mal affectif à admettre la solution que je dis, à admettre finalement l'idée que Dieu donne l'ordre de tuer. À mes yeux, donc, la solution est entière, mais vous ne serez peut-être pas forcément persuadé. Il faudra peut-être le temps d'imposer à votre âme le calme et le silence. Il y a d'abord le problème du sens du verbe dans le décalogue. Tu ne tueras pas. Ce n'est pas le verbe tuer le plus courant, celui qui est employé lorsqu'il s'agit de la guerre. Ce n'est pas le verbe harag, mais c'est le verbe ratsar, lo tirtsar, qui a un sens plus étroit, qui correspond à peu près à notre terme assassiné. Il ne s'agit pas de toute suppression de vie humaine de la manière la plus générale, mais il s'agit du meurtre assassinat d'un particulier qui tue un particulier. Je crois que cela est tout à fait attesté pour ce verbe « ratsar ».
Certains d'entre vous, vous avez fait de l'hébreu, je crois, donc je le montre. Nos conventions de transcription, c'est comme ça que
nous l'écrivons. C'est assassiné, Ratsar.
Pardon ?
C'est assassiné ou
tué ? Oui, c'est assassiné.
Et bonne partie de l'impression de contradiction vient de ce qu'on a négligé, la nuance propre de ce verbe. Je signale que moi, j'en ai vraiment pris conscience, quand j'ai lu le petit livre sur le décalogue, d'un critique, un savant critique, hein, Jean-Jacques Stamm, S-T-A-2-M, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il a été publié il y a quelques dizaines d'années, qui est professeur à Berne, c'était Berne, toujours, en tout cas, une faculté de langue allemande. Et il montre très bien ce sens de Ratzach et la différence avec le terme courant. Alors évidemment, on peut dire qu'il existe une tension, un antagonisme entre l'accent sur le respect de la vie humaine, sur l'amour du prochain. Ils sont dans l'Ancien Testament, hein, et pas seulement le Nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus va le chercher. Et dans un chapitre, où il est précisé aussi que l'étranger pourra être traité comme le frère de sang. Donc, ça va loin. Alors, on peut dire qu'il y a encore le problème de la tension entre ces deux éléments d'enseignement. À ce propos, il me semble qu'il faut répondre à deux choses. D'abord, que c'est une prérogative exclusivement divine que de supprimer la vie humaine. Celle de la vie humaine. Enfin, bon, on se comprend. De telle sorte qu'aucun homme ne détient le droit d'enlever la vie à un autre. Car l'autre est en image de Dieu. Est image de Dieu même, je crois qu'on peut comprendre de cette façon les expressions bibliques. Si la peine de mort est appliquée, si il peut y avoir une action légitime aux yeux de Dieu, c'est par délégation divine. C'est parce que Dieu en communique le droit qui lui appartient à lui seul. Ça, c'est la perspective biblique à coup sûr. Et déjà cela soulage une part de l'apparence de contradiction. L'homme, considérant ses propres projets, ses réactions, ses passions, n'a pas le droit. Il ne le détient pas. C'est sur commandement divin seulement qu'il peut le faire. Ça, c'est première perspective, qui, je crois, est clairement consignée dans toute la Bible, et jusque dans Romains 13, lève, c'est comme liturge, serviteur, liturge, littéralement, liturgos de Dieu qu'il porte le glaive. Ce n'est pas à titre personnel. Et puis la deuxième considération, c'est que cette suppression de la vie humaine que Dieu peut décider et dont il peut charger les exécutants qui accomplissent alors son commandement, c'est un mal, c'est le redressement d'un mal, mais disons que c'est quelque chose qui intervient dans un monde où le péché est entré, où le péché sévit. Ce n'est pas une situation idéale aux yeux de Dieu. Normalement, ce n'aurait pas dû se produire. La suppression de la vie humaine n'aurait pas dû avoir lieu. Mais c'est à cause du péché qui est dans le monde que l'imposition de la peine de mort, et je pense que dans la perspective biblique, la guerre ne peut être légitimée que comme une extension de l'application de la peine de mort, c'est seulement comme sanction de la violence pécheresse que la peine de mort est introduite. Par autorité divine, cet être qui s'est élevé contre le droit sacré de la vie humaine créé en image de Dieu, doit être à son tour frappé alors en sanction de son crime. La peine de mort apparaît à la fin du déluge, par exemple, comme précisément la manière d'honorer la vie humaine. Si quelqu'un verse le sang d'un autre homme, alors il doit être puni de mort. Parce que c'est si sérieux, parce que le meurtre est aux yeux de Dieu si grave. Vous voyez quelle est la perspective de la Bible. Donc, on peut affectivement trouver que c'est dur. Ça ne correspond pas à la sensibilité d'aujourd'hui. Dans des siècles, personne D'ailleurs, il y a trop de difficultés à cela. C'est très, assez moderne, notre sensibilité. Mais c'est vrai, nous trouvons que c'est dur. Mais il n'y a pas d'incohérence. C'est une vision biblique qui est, je crois, très cohérente. Oui, je crois. Ouais. Je pense que le Nouveau Testament ne change pas cela du tout et que c'est une erreur d'interprétation de croire qu'il le change. Alors, bien sûr, là, d'autres ne seraient pas d'accord. Mais ceux qui ne seraient pas d'accord diraient que dans le Nouveau Testament, c'est pour les chrétiens. Et ils reconnaîtraient qu'en ce qui concerne le magistrat, le glaive du magistrat, alors qu'ils pensent, eux, non chrétiens, le même schéma continue d'être disposé par Dieu que dans l'ancien. Oui, monsieur.
Il est certain qu'à notre époque, dans les attributs de Dieu, on a une licence qui est probable, bien, sur l'amour de Dieu, et qu'on a une contre-exemple à notre Dieu qui est la sénilité.
Eh oui. Monsieur Bé.
Il n'y a pas quand même un problème d'application d'une telle interprétation, dans le sens où, dans le passé, on a aussi justement dit au nom de Dieu.
Oui, oui, alors là, tout à fait d'accord. Bien sûr, on en a abusé. J'ai essayé de redresser ces perspectives bibliques en montrant à quel point c'est le respect de la vie humaine qui est en cause, même lorsqu'il s'agit de peine de mort. Mais c'est vrai que ça n'a pas été pris comme ça, que ça a servi de prétexte à des défoulements de violence, de cruauté. C'était épouvantable. Et on pense aux croisades, mais forcément aux croisades. Et vous rappelez que ce qui a le plus marqué sans doute les relations entre l'Est de l'Europe et l'Ouest à propos des croisades, c'est que les croisés partant pour délivrer les lieux saints se sont livrés à un sac, une dévastation, un pillage horrible de la ville chrétienne de Constantinople, Byzance. Bon, il y a eu des circonstances historiques, c'est plus compliqué que ce que je dis en résumé, mais enfin, c'est quand même une horreur historique. Hein.
Ça me pose quand même un problème parce que ça me fait penser que en fait, cette vision n'est pas adaptée en fait, pour cette vision des êtres humains qui vivent.
Bon, moi je vais compter en disant dans l'adaptation, étant donné le péché de l'humanité et des chrétiens encore, c'est vrai qu'il y a toujours des débordements, que c'est loin d'être idéal. Je suis persuadé que tout autre schéma, et en particulier des schémas beaucoup plus généreux en apparence, des schémas, disons, utopistes, fraternistes, etc., ont produit dans l'histoire, récente en particulier, des effets encore bien pires. Donc, à vouloir faire l'ange avec les êtres humains, on les a laissés montrer leur férocité de bêtes. Voilà, en gros, comment je réagirais sur ce point. Deuxième difficulté, qui est liée à la première, mais là, nous abordons le Nouveau Testament, l'ordre du serment sur la montagne de ne pas résister aux méchants, et la présentation de l'autorité comme établie par Dieu en Romains 13, avec les conséquences pour les disciples du Christ. Cette fois, il s'agit des conséquences pour nous, les disciples du Christ, pour les chrétiens. Alors là, il n'y a pas d'accord entre les professeurs de la faculté. Monsieur Blau est un ménonite pacifiste, selon son rattachement dénominationnel, et je ne suis pas, et d'autres professeurs non plus. Hein. Donc, il n'y a pas d'accord. Ce que je mets ici sous le point 2 est une difficulté qui n'est pas résolue entre nous. Nous avons eu l'occasion d'en débattre. Il y a un fascicule qui a été publié, je crois que c'est par la commission baptiste libriste d'éthique, où nous exposons, M. Blau d'un côté, moi-même de l'autre, il y a aussi un texte de M. Nicole, nos compréhensions de la Bible, en ce qui concerne le thème de la guerre juste, la participation des chrétiens. Et donc c'est une difficulté qui, elle, se résout moins facilement, bien que ma conviction soit entière, ce n'est pas que j'hésite là, mais Je reconnais que des gens qui sont très proches et compétents, les uns et les autres, enfin, j'espère que je suis compétent, en tout cas je sais que je suis très compétent, ne sont pas d'accord. Parce qu'il s'agit de ce que cela implique pour le disciple du Christ. Je crois qu'il y a accord pour dire que le magistrat païen, que Paul a en vue, peut user du glaive et que le chrétien ne doit pas se révolter. Il y a accord pour dire que l'appel qui est adressé aux chrétiens et qui doit avoir force de loi dans la communauté chrétienne, c'est de ne pas user de violence, même quand on lui fait tort, et de pardonner gratuitement. Si on lui demande pardon, et 77 fois cette fois, l'appel, la consigne spirituelle que donne le Seigneur Jésus à ses disciples dans cette communauté du royaume qu'est l'Église, c'est de pardonner inconditionnellement, sans faire payer. Bon. Là, il y a accord sur ce point. Mais là où il y a désaccord, c'est quant à la participation des chrétiens dans la vie de la société. Le chrétien peut-il être un de ces magistrats qui porte le glaive pour réprimer le méchant? Ou ne peut-il pas l'être? Et ça implique aussi, dans la mesure où on peut considérer la guerre comme une extension de cet usage du glaive dans la protection de l'ordre social, la participation à la guerre. C'est le magistrat qui commande de porter les armes. Le chrétien doit-il obéir au magistrat et porter les armes? Ou doit-il le refuser par objection de conscience? Ou peut-il faire l'un ou l'autre en cherchant d'avoir une vocation individualisée de la part de Dieu? Et voilà le débat. Et tout ne se tranche pas très facilement, bien qu'à mes yeux, on puisse aboutir à une conclusion ferme. Je ne veux pas non plus la trop développer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je signalerai simplement plusieurs éléments qui, pour moi en tout cas, ont beaucoup d'importance. D'une part, il me semble très clair qu'il faut écarter une interprétation qui n'est pas l'interprétation classique des Ménonites, mais qui se trouve chez certains auteurs, et que suggère en particulier John Yoder, dans le livre « Jésus et le politique ». À savoir que ne pas résister au magistrat, se soumettre au magistrat, ne pas résister à son autorité dans Romains 13, ce serait simplement l'application de ne pas résister aux méchants dans le sermon sur la montagne. Il tend à comprendre l'ordre de Romains 13, soumettez-vous, comme l'ordre du sermon sur la montagne, présenté l'autre jour. Et je pense que ce n'est pas satisfaisant, que la logique de Romains 13 est complètement perdue, celle de la délégation d'autorité, je crois qu'on peut la faire ressortir, que le magistrat n'est pas présenté là comme le méchant, auquel il faut simplement se soumettre parce qu'il faut se soumettre à tout méchant. C'est pas de cette façon, je crois qu'on se méprend radicalement sur la pensée de Paul à cet endroit. Donc, voilà un élément. Autre élément, là, qui pour moi joue un très grand rôle, il faut distinguer les plans et les temps. Il est sûr que l'absence de toute violence, de toute administration, de sanctions par le glaive, etc., c'est ce qui est promis pour le royaume qui vient. Dans le royaume, ce sera absolument fini. Mais nous n'y sommes pas encore. Il faut distinguer ce qui est la volonté de Dieu pour la conduite dans le temps qui n'est pas celui de la fin. Il ne faut pas croire que nous pouvons anticiper sur le calendrier de la sagesse de Dieu. Et cela en particulier avec la distinction des plans. Le royaume de Dieu qui vient, il est déjà présent, mais en esprit, au plan spirituel, ce n'est pas l'ordre social qui en est renouvelé, c'est dans l'Église comme communauté de l'esprit. C'est pour ça que dans l'Église communauté de l'esprit, c'est le pardon gratuit, ce n'est pas la violence. Mais ça ne peut pas être appliquée à la société externe dans laquelle nous sommes toujours. Distinction des plans et des temps. Et puis, troisième point, complexité paradoxale de la condition du chrétien dans le monde. C'est une conséquence de cette dualité des plans et des temps. Le chrétien, du coup, se trouve dans une double citoyenneté. Il n'est pas du monde, il est citoyen de la cité céleste, sujet du royaume qui vient, mais il est aussi dans le monde avec la citoyenneté terrestre qui demeure, avec droits et devoirs afférents. Paul fait jouer sa citoyenneté romaine. Il y a une double citoyenneté, donc c'est complexe, et c'est pas toujours très facile à faire jouer. Voilà, ce sont des éléments qui pour moi comptent dans la réflexion, dans la solution de la difficulté. Ce n'est pas un traitement complet de cette difficulté, là je ne vous la donne pas, mais vous avez une idée de la manière dont on peut s'engager dans ce travail. Troisième catégorie, alors là vraiment oui je pense, désaccord apparent dans l'écriture sur un point particulier. Alors c'est écriture contre écriture. Dans 2 Samuel 24:1, il nous est dit que Dieu a suscité la démarche de David dans sa colère contre Israël, d'effectuer un recensement qui est coupable et qui va être sévèrement puni. Dans le passage parallèle du second livre des Chroniques, du premier livre des Chroniques, 21:1, vous avez pratiquement les mêmes phrases. Et c'est Satan qui est le sujet, et c'est pas Dieu. Pas le Seigneur. Alors là, ça paraît une contradiction énorme, de grande violence. Mais Calvin dit que cela s'accorde très bien. Et j'estime qu'il a tout à fait raison. Que si l'on considère les rapports entre Dieu et Satan, et le mal qui arrive dans le monde, d'après plusieurs passages bibliques, on comprend très, très bien. Dieu demeure souverain, même avec l'action de Satan. À l'égard du mal, c'est son plan souverain qui s'accomplit. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Mais, en ce qui concerne le mal, c'est de façon permissive. Ce n'est pas Dieu qui le produit. Il y a là un mystère, que j'appelle le mystère opaque, impénétrable par notre raison, mais il est bien attesté bibliquement, il le permet et il utilise le méchant. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, la fureur même de l'homme loue Dieu, Satan lui-même est un instrument. Malgré toute sa vilenie, dans le plan de Dieu, il demeure sous la souveraineté de Dieu. Alors avec les deux textes, on a le tableau complet. C'est Satan qui est le tentateur. C'est Satan qui est l'instigateur du mal. Mais cela se passe sous la souveraineté de Dieu, d'une façon qui pour nous demeure mystérieuse. Et le langage de la Bible peut court-circuiter en quelque sorte ce rôle intermédiaire de Satan, ou des hommes méchants aussi dans d'autres passages. Et donc on peut avoir des phrases comme dans 2 Samuel. C'est conforme à un usage biblique, on pourrait citer plusieurs autres passages dans mon livre Le Mal et la Croix, vous en trouverez si vous voulez. Donc, à mon avis, là, ça se résout très bien parce que ça correspond à une doctrine constante de l'Écriture sur le rapport entre la souveraineté de Dieu et ce qui se produit de mal.
Dans ce cas, quand on peut penser à mon Dieu et souveraineté,
c'est le mystère opaque. Là, moi, je dois exercer une foi nue, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de solution que notre raison puisse maîtriser, démonter de cette difficulté-là. Mais ce n'est pas une petite difficulté, c'est le mystère qui nous domine et pour lequel nous sommes appelés à simplement croire. Ce qui me convainc tout spécialement de cela, c'est Romains 9. Paul pose exactement le problème. Pourquoi blâme-t-il encore si rien ne résiste à sa volonté? Si c'est Dieu qui est le souverain, qui décide de tout le mal, pourquoi fait-il des reproches aux méchants? Il s'en sert, le méchant ne pouvait rien faire sans sa souveraine permission. Tout est inscrit au décret de Dieu. Alors pourquoi Dieu juge-t-il le méchant, le blâme-t-il? Paul pose exactement le problème. Et comment il répond? Comment répond-il? Il ne donne pas de solution rationnelle. Il dit, tu ne peux pas comprendre, qui es-tu, vase d'argile? C'est un des passages qui me convainc que c'est un piège gnostique que de prétendre donner la raison. Là, c'est comme ça que je vis ça. Je dois dire, je ne suis qu'un disciple, je reçois cet enseignement biblique, il est pour moi assez net et clair, je ne le maîtrise pas. Deuxième cas, la mort de Judas. Matthieu nous dit, il est allé se pendre, saisi de remords, etc., après avoir trahi Jésus. Et acte 1, c'est Pierre qui parle et qui rapporte ce qui s'est passé, dit dans les traductions courantes qu'il est tombé la tête la première, que son ventre a éclaté, etc., que ça s'est répandu partout. Bon. Apparence de contradiction. Comment résoudre? Très classiquement, déjà saint Augustin, je vous ai dit, saint Augustin a vraiment l'optique harmonisatrice qui correspond à la doctrine de l'inhérence. Saint Augustin a dit, parce que la corde a cassé. Oui, John Wesley aussi, j'ai jeté un coup d'œil sur ses notes du Nouveau Testament, dit ça, d'autres l'ont dit. Il est allé se pendre, la corde a cassé. Mon commentaire à propos de cette solution, c'est qu'il ne faut pas la mépriser. Elle fait sourire. Et typiquement, ceux qui ne croient pas à l'inhérence vont dire, mais c'est pas honnête. Et je vérifie en disant, mais pourquoi ce ne serait pas honnête? Pourquoi ce ne serait pas honnête? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une erreur? Après tout, ce n'est pas impossible. Et dans les livres, à un moment, j'avais pas mal travaillé sur la question du suicide, j'avais lu dans plusieurs livres, une conférence qui m'a amené à plusieurs lieux. Et en fait, ça arrive assez souvent que dans les tentatives de suicide, la corde casse. C'est peut-être un acte manqué, mais en fait, c'est pas si grave. Donc, vous voyez, bon. En même temps, c'est pas la solution qu'ici je préfère, sans prétendre qu'il y ait une solution qui l'emporte avec évidence. Là encore, des critiques libéraux ont proposé autre chose, en disant que le mot traduit dans acte 1, qui est le mot prenes en grec, traduit, il est tombé la tête la première, pourrait aussi avoir un autre sens, à savoir de gonfler. Alors, c'est Chase qui a le premier introduit un semi-libéral anglais, disons, et le grand libéral le plus fameux de son époque, Harnack, en Allemagne, c'était vraiment un libéral extrême, l'a repris à son compte, vous voyez. De nouveau, il y avait des libéraux aussi qui trouvent des harmonisations. On dit que Prenes devait se comprendre de cette façon. Alors on comprend là facilement que le cadavre du pendu, fermentation, etc., il a gonflé, éclaté. Vous voyez?
Vous prenez, c'est la tête la première?
Oui, c'est ça. S'étaler de devant soi. Oui, monsieur Henri.
Réduit à mes propres ressources, j'avais étant temps de régler cette contradiction, mais n'ayant jamais pris le temps de contrôler, j'avais imaginé autre chose. Je réfléchis que ça peut-être ne pas s'accorder avec des textes postérieurs aux évangiles qui affirment que Judas s'est pendu. Mais moi, j'avais pensé la chose ainsi, c'est que Judas était parti dans l'intention de se pendre. Mais que dans son trouble, et puis le démon étant entré en lui, il avait pu lui arriver un accident en cours de route, et qu'à ce moment-là, il serait tombé son corps se serait... serait passé ce qu'a dit l'Écriture.
Moi, je pense que ce n'est pas du tout impossible. Oui. De nouveau, nous retrouvons cette élasticité du langage. Il alla se pendre. Est-ce qu'il s'est vraiment pendu ou pas? Élasticité du langage. humilité de l'interprète qui ne peut pas si souvent dire voilà le sens, c'est absolument surpris. À cause de cette flexibilité, nous avons une nouvelle illustration. Moi, je ne repousserai pas du tout comme impossible à envisager ce que nous suggère M. Henri. Alors, j'arrive, c'est l'heure, hein, j'arrive à la conclusion. D'une part, l'enjeu, comme je l'ai dit, et puis la formule qui me plaît, que je cite dans le canevas. L'enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir si la parole de Dieu est vraiment venue jusqu'à nous. La parole de Dieu dans notre langage, Dieu nous parlant, nous disant ces choses lui-même. Il y a une différence radicale, essentielle, entre une parole de Dieu qui reste à mi-hauteur, qui est un thème, certes déjà une grande grâce, mais qui ne reçoit qu'un écho, une sorte de réfraction humaine, et puis une parole de Dieu qui vient jusqu'à nous, c'est Dieu qui nous parle. C'est cela, à mes yeux, qui est le véritable enjeu, avec un enjeu subsidiaire que je n'ai pas mentionné encore, mais qui est pour moi aussi très important, la question de la discipline dans l'Église. Ça paraît très différent. Il me semble que le Nouveau Testament montre clairement que s'exerce une discipline doctrinale dans l'Église. Il y a de la fausse doctrine qu'il faut combattre et exclure. Et Paul s'indigne quand les Corinthiens n'exercent pas cette discipline. Vous recevez très, très facilement un autre Jésus, un autre évangile, et il s'indigne, parce que les gens ont un autre discours. Si on admet que la Bible puisse commettre des erreurs, je ne vois pas comment on peut continuer à exercer la discipline. Parce que si quelqu'un dit une petite erreur, mais qui va déterminer ce qui est petit, ce qui est grand? À partir de quand? Des gens vont dire c'est une petite erreur que l'Évangile nous rapporte deux multiplications des pains, en réalité il n'y en a eu qu'une. Et d'autres vont aller un peu plus loin en disant que c'est une erreur, finalement une enjolivure, une légendaire, que la naissance virginale. Et d'autres vont continuer à dire, mais entre les récits des Évangiles sur la résurrection, il y a beaucoup de contradictions, donc ce que ça veut dire, c'est que Jésus est vainqueur. Mais le tombeau continue à avoir le cadavre. L'abbé Laurentin cite un de ses collègues, dit qu'il a fait une belle carrière académique dans l'Église de France, qui lui glissait ce qu'il y a d'embêtant dans la résurrection, c'est le tombeau vide. Ah oui, parce que tant qu'on parle de la résurrection comme de Jésus vainqueur, de la cause de Jésus qui continue, de la vie plus forte que la mort, alors là c'est très bien, ça se prêche très facilement, etc. Mais s'il faut en venir à un événement très concret, précis, qui affecte la matérialité du corps, et donc qui laisse le tombeau vide, alors là, c'est tout à fait autre chose. Mais si je comprends bien Paul dans 1 Corinthiens 15, il dit que si précisément il n'y a pas ce corps, cette résurrection réelle, corporelle, notre foi est vaine. Et nous sommes finalement les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez, comment exercer la discipline? Si on admet qu'il peut y avoir des erreurs, qui va donner la mesure de la grosseur de l'erreur? Il n'y a plus de règles de référence. L'autorité de pratiquement n'importe quoi peut être contestée à bon droit, puisqu'on a admis qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est le deuxième enjeu. Il y a l'enjeu théologique profond et pour la piété de chacun de nous, et puis il y a cet enjeu ecclésiastique relatif à la discipline qui me semble aussi considérable. Et il ne s'agit pas simplement de se laisser dominer par la pensée des enjeux, il faut voir si les bases de l'affirmation sont saines. Ça, c'est ce que j'ai essayé de voir avec vous tout au long de ce séminaire. Ma propre conclusion, c'est qu'elles le sont et que toutes les difficultés qui subsistent ne pèse pas lourd. Pour celui qui connaît le Seigneur, c'est un temps avec une foi affermie. Et le cardinal Newman a une formule qui me plaît beaucoup. 1000 difficultés, en fait il dit même 10 000, mais en français ça sonne mieux. 1000 difficultés ne font pas un doute. Difficultés, oui, mais dans l'assurance et la fermeté de la foi. Voilà, voilà ma petite conclusion, on va provisoire sur le sujet. Voilà, il faut. Voilà, je ne veux. Je...